Alors, je suis avec Jacques Planchon, qu'on avait déjà eu au début de l'émission. Et on va vous parler ensemble, donc plus en profondeur, des travaux de restauration qui sont en train d'avoir lieu à la cathédrale. Donc, j'ai sous les yeux le programme précis. Alors, je vais vous le lire et puis on l'expliquera ensemble parce que moi, je ne comprends pas tout en tout cas. Donc, détuilage de la nef, de l'abside et de la toiture de la sacristie, réfection des charpentes des 13e et 17e siècles, réfection du voligeage et retuilage en tuiles canales fixées une par une. Alors, oui. Qu'est-ce qu'ils font ?
Alors, c'est vrai que là, vu comme ça, c'est un petit peu complexe. Alors déjà, peut-être une explication de quelques termes simples. La nef, c'est la grande partie de la cathédrale, là où il y a les bancs où on s'assoit. Le chœur, c'est la partie qui est au fond, un peu arrondie, là où officient les prêtres et là où on trouve l'orgue. Et puis la sacristie, c'est le petit bâtiment qui est au fond à droite, donc qui donne juste en face de la poste, qui est une tour du XIe siècle, qui est accolée au bâtiment principal de la cathédrale. Donc, en effet, l'ensemble de ces toitures avait souffert. Il y avait des fuites, donc il fallait les reprendre. Et ça passe par un détuilage complet, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les tuiles. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas en enlever une sur deux. Pour reprendre aussi, alors, le voligeage, c'est les planches de bois qui sont sous les tuiles, qui permettent aux tuiles de reposer sur quelque chose, parce que sinon, dessous, c'est une charpente. Une charpente, c'est des entrecroisements de poutres. Et évidemment, il y a des vides. On ne peut pas poser des tuiles directement sur les charpentes, sinon ça tombe. Voilà.
Donc, vous êtes aussi charpentier, là.
Alors, c'est vrai que les archéologues, en général, s'occupent peu des charpentes, simplement parce que quand on arrive sur un édifice, en tant qu'archéologue, ça fait longtemps qu'il n'y a plus ni toiture, ni élévation. Mais bon, en travaillant sur la cathédrale, on finit quand même par acquérir quelques éléments de vocabulaire architectural.
C'est ça, c'est très technique.
Donc, j'essaie de simplifier au maximum, parce que c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, dès qu'on devrait faire des spécialistes. Donc il s'agissait en effet d'enlever toutes les tuiles, de remplacer toutes les planches qui avaient souffert de la pluie, de remplacer, comme j'ai dit tout à l'heure, les éléments de charpente, c'est-à-dire les grosses poutres, qui elles aussi, certaines avaient souffert. Donc il y avait quand même un gros travail qui se fait donc en trois temps pour ne pas déranger les petites chauves-souris qui nichent là-dedans pendant l'été.
D'accord. Les chauves-souris qui nichent là-dedans pendant l'été, elles sont protégées ?
Alors elles sont protégées, c'est l'espèce du grand murin. Donc c'est la plus grande chauve-souris en dimension au niveau européen. On en trouve relativement peu, mais elles apprécient, a dit, particulièrement les monuments historiques, puisqu'on les trouve en nichée l'été dans les combles de la cathédrale, et puis aussi dans les combles du château Saint-Laurent. Qui est classé lui aussi au titre des monuments historiques. Donc c'est des chauves-souris qui non seulement sont protégées, mais qui ont l'avantage d'avoir un goût patrimonial très sûr.
D'accord. Les travaux de restauration, excuse-moi, je sais, tu l'as dit ou pas, ils finissent quand ?
Alors les travaux de restauration prendront fin en mars l'année prochaine, puisque bon, comme je suis un petit peu revenu dessus, ça se fait en trois tranches différentes, puisqu'il faut éviter les périodes de nidification. Donc on ne peut intervenir sur la toiture principale de la nef que pendant l'hiver, ce qui est la plus mauvaise saison. Et on met à profit l'été entre les deux hivers pour s'occuper de la nef, du chœur, donc la partie arrondie qui donne sur la sous-préfecture, et de la toiture de la sacristie qui est en face de la poste. Puisque là, il n'y a pas de chauve-souris, donc on peut intervenir tranquillement.
D'accord. On va quand même citer le nom du coup de l'architecte qui s'occupe de ça.
Alors voilà, comme pour tout monument historique, ces travaux sont placés sous la maîtrise d'œuvre d'un architecte en chef des monuments historiques qui s'appelle Olivier Naviglio. Il a son cabinet à Lyon et il intervient dans tout le département de la Drôme et aussi dans d'autres départements en région Rhône-Alpes.
D'accord. Et c'est des gens spécialisés qui font les travaux ?
Oui. Alors les architectes eux-mêmes sont déjà spécialisés. C'est des gens qui, pour être architecte en chef des monuments historiques, ont fait l'école de Chaillot, donc une école spécialisée pour architectes déjà diplômés. Alors bon, lui, il ne sort pas juste de l'école, il a un certain nombre d'années d'expérience derrière lui. C'est quelqu'un qui connaît bien son affaire et qui sait très très bien mener son chantier. Là, les choses se passent plutôt bien. Pour les entreprises, ce sont aussi des entreprises qui se sont en général spécialisées dans le traitement des monuments historiques. Alors j'espère que j'ai oublié personne. C'est pour la partie toiture et charpente, c'est l'entreprise Bourgeois qui intervient. Je crois que c'est une entreprise de Marseille, je ne suis pas absolument sûr. En tout cas, ils font un super boulot et je les ai vus notamment travailler sur la toiture de la petite tourelle d'escalier qui permet de monter au clocher, qu'ils ont refait entièrement en plomb à l'ancienne, et c'est un travail absolument magnifique. Et sinon, il y a une petite partie maçonnerie qui a été remporté par l'entreprise Jacquet. Jacquet, qu'on connaît bien à Die, puisqu'ils sont déjà intervenus sur les remparts deux fois de suite, enfin trois fois de suite même, dont une fois au titre du mécénat. Et c'était une opération extrêmement intéressante et importante pour Die, puisque cette opération qui a fait du mécénat sur les remparts, entreprise qui a fait du mécénat sur les remparts a également fait du mécénat sur l'escalier du château de Chambord, ce qui met le rempart d'une certaine façon en parallèle avec le château de Chambord. Ah, c'est pas rien.
C'est classe, voilà. C'est classe.
Non, mais là, une très très belle opération. Et d'ailleurs, cette tour, si vous voulez l'admirer, c'est la deuxième tour en montant après la porte de l'hôpital, en montant en direction de la citadelle. Et là, il y a un travail absolument fantastique qui a été réalisé par cette entreprise sous forme de mécénat.
D'accord. Bon, alors, super, on a récupéré tout le plateau complet.
Oui, voilà, alors Georges Bergignat reprend place avec nous et c'est Madame Blanche Maison qui a pris place aussi à côté de toi, Anaël.
Oui.
Et vous allez pouvoir poursuivre ensemble.
Notre discussion, tout à fait. Donc, j'attends que tout le monde soit équipé, casque, micro.
Voilà, et vous êtes toujours sur RDIWA 107.5 FM. Voilà, l'émission spéciale cathédrale ou sur internet.
www.rdiwa.fr.
Bien sûr.
Donc, rebonjour messieurs, dames. Bonjour Madame Blanche Maison.
Bonjour à tous.
On vient de discuter un peu avec Jacques des travaux de restauration plus en précision et de ce qu'on y faisait plus de manière technique. Et donc, on va peut-être passer un petit peu sur le bon de souscription. Donc, je crois que vous en avez déjà parlé un peu tout à l'heure.
Oui. Mais il est jamais inutile de revenir sur ce dossier-là parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure que le coût TTC serait de l'ordre de 800 000 euros. Même si nous sommes très bien aidés par l'État à travers la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et également le Conseil général, qui nous a promis de nous aider sur ce dossier. Nous avons dû nous rapprocher donc de la Fondation du patrimoine et de l'association Dea Augusta pour lancer des bons de souscription. Ces bons de souscription, il faut quand même que les Diwas sachent que pour un don de 100 euros, ils auront 66 euros d'économie d'impôt, 66% qui leur seront rendus dans le cadre d'économies d'impôts.
Qui sont déductibles donc à la fin de l'année.
Tout à fait, donc ce qui est quand même relativement intéressant. Cette hauteur à 66% est directement liée parce que c'est un don au patrimoine. Donc je crois que c'est quand même important que les Diwas qui sont attachés à leur patrimoine participent à sa rénovation.
D'accord, c'est ouvert aux entreprises aussi ou...
Alors c'est ouvert aux entreprises qui peuvent eux aussi le déduire de leurs impôts et à hauteur de 60% dans la limite de 5% de leur chiffre d'affaires. Mais pour une entreprise, un don de 500 euros, ils auront 300 euros d'économie d'impôts, donc ce qui n'est pas non plus négligeable.
Complètement.
Donc on espère, on espère que... les personnes et les entreprises seront nombreuses pour nous aider sur ce dossier.
Où est-ce qu'on peut le trouver, ce bon de souscription ? J'imagine un peu partout dans les lieux culturels.
Bien sûr, dans les lieux culturels, à la mairie bien entendu. Et puis on essaiera de communiquer et ça sera affiché sur les panneaux électroniques de la mairie pour savoir partout où on peut les trouver.
D'accord.
Mais d'ores et déjà, au niveau de la mairie, on peut les trouver sans problème.
Super.
Et on peut les trouver ce matin.
Et on peut les trouver ce matin au studio de RDIWA, donc au studio mobile. On en a pris quelques-uns, même pas mal. Et donc, si vous avez envie de faire un don avec ce bon de souscription public mis en place par la mairie, la Fondation du patrimoine et l'association Dea Augusta, il n'y a pas de problème, on en a ici et vous n'hésitez pas surtout à venir en récupérer. Voilà pour ça. On va peut-être parler un peu de l'AVAP. Alors, Madame Blanche-Maison, je sais que vous avez un peu préparé ce sujet pour nous.
On a un petit peu travaillé là-dessus, effectivement, ces derniers temps. Donc, l'AVAP est un nouveau document d'urbanisme qui est en train de se mettre en place, puisqu'on en est au stade de l'enquête publique, qui remplace la ZPPAUP, qui était l'ancienne zone de protection du patrimoine architectural et du paysage, qui, dont l'idée était dans un périmètre de 500 mètres de tout édifice classé, de permettre la protection des monuments par l'intervention en fait de l'architecte Conseil des bâtiments de France sur tous travaux de restauration, rénovation, etc. dans ce périmètre. Donc cette ZPPAUP, qui est devenue la VAP par la suite, mais enfin il faut qu'on reprenne un peu l'historique.
Oui, bien sûr.
Était liée au fait qu'effectivement le patrimoine majeur de notre commune, c'est principalement la cathédrale à côté de laquelle nous sommes aujourd'hui, sachant qu'il y a également les remparts qui sont un édifice classé et puis au quartier, une propriété au quartier Saint-Laurent, donc dans un quartier extérieur de Die. Donc ce document était en cours de rénovation puisque nous avons validé notre plan local d'urbanisme en 2009 et cette ZPPAUP devait être compatible avec le document d'urbanisme. Donc nous étions en cours de rénovation quand nous avons eu le Grenelle de l'environnement qui nous a obligés à reprendre notre document de protection des bâtiments dans le centre ancien. En intégrant la prise en compte de tout ce qui concerne les énergies renouvelables, etc. Alors, donc la VAP, maintenant, cette nouvelle définition de document d'urbanisme, c'est l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Donc géographiquement, c'est le même secteur que l'ancienne ZPPAUP.
Le secteur, c'est donc le centre ancien de Die principalement.
Voilà, le centre ancien de Die, sachant qu'on doit l'élargir effectivement au quartier de la gare pour protéger toutes ces maisons anciennes style 1900. Et puis sur à l'entrée de Die en venant de Valence, donc sur une zone de parcelles agricoles, donc qui est étendu, c'est étendu à ce secteur-là.
Pourquoi cette zone? Comment est-ce que ça a été délimité? C'est en accord avec la mairie?
C'est en accord avec la mairie. Bon, l'équipe précédente avait souhaité l'étendre un peu plus que ce que nous voulions. Donc on l'a étendu un tout petit peu au secteur principalement les parcelles sur lesquelles il y a les cabanons en entrée de ville.
C'est en particulier pour protéger toute la vue que l'on a quand on arrive sur Die, pour qu'il n'y ait pas de construction qui dénature un petit peu ce paysage qui est assez exceptionnel quand on arrive de Die et qui a été mis en plus très en valeur avec le nouveau pont des Chênes.
Donc patrimoine historique bien sûr, mais patrimoine naturel aussi.
Exactement. Voilà, tout à fait.
Rentre en ligne de compte.
Et donc oui, la VAP donc, se compose de trois sous-secteurs. Donc il y a le centre ancien, il y a la proche périphérie, ce qu'on appellera les faubourgs de Die, et puis une troisième zone qui est la zone naturelle, donc qui correspond au jardin, aux terres agricoles. Donc d'accord. Avec une réglementation spécifique à chacune des zones concernant donc les travaux sur les toitures, les murs, les menuiseries, les ferronneries.
Je crois que c'est ça qui ressort plus particulièrement au sein des DIY, c'est par exemple pour une réfection de façade ou quelque chose comme ça, ça peut être compliqué, ça peut être...
Voilà, donc on met à disposition depuis des années l'architecte conseil Monsieur Paul Béron à la disposition des DIY une fois tous les 15 jours, donc pour tous travaux de rénovation dans l'aire de la VAP. Donc ça permet à tout particulier qui souhaite faire des restaurations dans le centre ancien d'aller consulter l'architecte qui lui dira si les travaux de rénovation qu'il veut faire sont possibles ou pas en fonction donc du PLU et de la VAP. Donc c'est très intéressant, sachant que dans le centre ancien, donc nous avons une opération façade aussi.
Qu'est-ce que
c'est
cette opération façade ?
Notre objectif, c'est d'embellir un petit peu le centre ancien. Donc cette opération façade qui remonte à 1991 et qui a évolué un petit peu. Actuellement, donc sur des travaux de rénovation de façade, dirons-nous classiques, nous avions jusqu'à 25% de subventions. Et là, au conseil municipal de cette semaine, nous avons décidé de faire passer de 25% à 30%. Donc tous travaux de restauration sur une façade, disons, classique, sachant qu'il y a toujours possibilité pour des travaux un peu exceptionnels sur du patrimoine un peu plus remarquable, d'avoir une subvention de 50% qui a été augmentée de 10% elle aussi, mais avec un plafond à 2500 euros.
D'accord.
Non, oui, de l'ordre de 2000 euros, de même que pour les devantures commerciales.
Donc il faut savoir que cette AVAP met des contraintes aux personnes qui veulent rénover ou restaurer ou changer quelque chose sur les façades, par exemple, ou leur maison.
Voilà.
Mais il y a aussi d'autres choses qui sont mises en place par la municipalité
donc,
pour aider.
Déjà, dans un premier temps, pour être sûr qu'ils pourront bien faire leurs travaux, l'architecte conseille leur dit si ceci, cela est possible. Comme ça, le jour où ils obtiennent leur permis de construire.
L'architecte conseil, monsieur Paul Béron.
Monsieur Paul Béron. Donc, ils sont sûrs d'obtenir leur permis de construire ou de déclaration de travaux sans difficulté. Donc, sachant que dans le centre ancien, on travaille aussi actuellement, parce que c'est un petit peu compliqué, pas très esthétique, sur tout ce qui est signalétique, pré-enseigne et enseigne, principalement dans les rues commerçantes. Donc pour établir un cahier des charges et essayer d'avoir un petit peu plus d'harmonie.
D'accord.
Sinon, donc, on a parlé tout à l'heure donc, de la zone naturelle, qui est le troisième secteur de la VAP. Donc, dans le secteur naturel, donc, qui est le secteur du Martouret, le secteur des, ce qu'on appelle les jardins familiaux, donc le secteur du Perrier de l'Aube, on fait travailler toujours M. Paul Béron en collaboration avec la commission urbanisme sur un cahier des charges pour la protection de tous les cabanons existants actuellement. Donc sachant que vous êtes tous allés vous balader dans ces secteurs, donc il y a des cabanons en bois et des cabanons en pierre. Donc c'est un document qui sera justement annexé à la VAP quand elle sera validée, qui permettra d'avoir des renseignements plus précis sur ce qu'on peut faire dans la restauration de son cabanon en pierre ou son cabanon en bois, si on peut éventuellement construire, ce qu'on peut démolir, etc., avec un espèce de petit croquis type de ce qu'on souhaiterait voir, parce qu'on n'a pas dans l'idée de faire un cahier des charges très précis pour avoir des cabanons style en bois, style Conforama, sur toutes les parcelles. On veut quelque chose d'un peu plus élaboré,
sans faire de publicité. Je crois qu'on est en train, en partenariat avec le Greta, de construire deux cabanons dans la partie des jardins communaux qui sont mis à disposition de familles qui ont envie de faire des jardins et qui ont besoin d'être aidées. Donc dans ce cadre-là, il y a un partenariat avec des stagiaires qui construisent deux cabanons dans, bien sûr, des cabanons en bois et avec certains seront avec de la paille, d'autres avec un toit végétalisé. Et ils nous serviront aussi un peu de modèle et de repère dans le cadre de ce projet pour rendre le Perrier un peu plus joli que ce qu'il est aujourd'hui. Parce que, bon, il y a des beaux cabanons, mais il y en a quelques-uns qui se sont un peu dégradés. Oui. Et qui ne sont pas très jolis à voir.
D'accord. Ce qui m'amène à quelque chose dont je voulais parler, c'est l'importance de la protection et de la conservation du patrimoine pour vous, à la municipalité, donc pour vous, madame qui est adjointe.
Tout à fait. Donc, si vous voulez, tout le monde a vu qu'il y avait des échafaudages autour de la cathédrale. Donc, actuellement, on est en train de restaurer la toiture, qui avait quelques petits ennuis. Donc, ce sont des travaux qui vont s'échelonner sur une période un petit peu longue. Nous continuons régulièrement les travaux d'entretien sur les remparts. Donc sur l'année 2012, on va voir plutôt sur les recherches de subventions. La prochaine étape sera sur l'année 2013. Et puis, au travers de l'opération façade, effectivement, c'est de l'aide à toute restauration, mise en valeur de bâtiments. On voit par exemple place du marché. Il y a une très belle maison qui vient de finir d'être restaurée. Donc, c'est vrai qu'ils ont apprécié d'avoir une petite aide de la mairie.
D'accord. Je crois qu'il m'a débranché.
Ah. Ça veut dire qu'il faut recommencer.
Non, c'était juste moi qui étais débranchée. Je voulais réagir et j'essayais de parler, mais ça ne fonctionnait pas.
Mais c'est tout un ensemble, que ce soit l'opération façade, que ce soit le règlement sur les cabanons du Perrier, que ce soit tout ce qui est signalétique, etc. C'est un ensemble pour embellir le centre ancien de la ville
c'est, oui,
et sa proche proximité.
patrimoine, donc patrimoine commun, voilà. Voilà. Donc beaucoup d'aides mises en place pour aider la population à préserver voilà. son patrimoine. Et du coup, à nous, parce que moi, c'est mon métier, mais de faire de la médiation du patrimoine, c'est super. Et on peut voir donc avec ces travaux de restauration que la mairie a pris en charge. On peut faire des choses...
On peut se demander quand même pourquoi les travaux de la cathédrale vont durer 3 ans, parce qu'aujourd'hui, on sait quand même faire plus vite.
On en a parlé juste avant, avec la protection des chauves-souris.
Voilà, c'est quand même pour respecter le rythme de reproduction des chauves-souris qu'on est obligé de mettre 3 ans, mais autrement, on aurait su faire plus vite, bien sûr.
C'est ce que je disais en interview, c'est que d'un côté, des fois, on a les tulipes, et de l'autre côté, on a les chauves-souris.
On a beaucoup de richesses, Adi. Ouais.
On protège
la
tout le monde.
La faune et la flore.
Ouais. Ouais, c'est bien comme ça, c'est formidable. Sur cette place de la République, il y a un problème de micro, voilà. Franchement.
C'est le vent.
Ma pauvre Anaëlle, alors non seulement aujourd'hui on a eu beaucoup de vent, et puis alors elle a ce micro qui tourne sur elle-même, c'est absolument affreux.
C'est horrible.
On va réussir à régler ce problème.
C'est bon.
C'est ça, c'est celui-là.
C'est ça, merci beaucoup, j'avais pas assez de force.
Merci Jacques Planchon.
Merci Jacques. Donc charpentier, conservateur de musée et technicien son, voilà, on peut saluer la performance. Merci beaucoup. Alors sur cette place de la République, qu'est-ce qui va se passer au niveau des fouilles archéologiques dont on parle beaucoup? Qui est-ce qui veut répondre?
Mais disons que déjà, je vais laisser un spécialiste en parler. Seulement, je tiens à dire qu'au départage, après des sondages, il était question de faire des fouilles sur l'ensemble de la place. Donc après discussion et négociation avec les services de l'État, c'est que 2 parties qui vont être concernées et qui vont nous permettre donc de fouiller un petit peu plus complètement des parties qui méritent sans doute de savoir un petit peu ce qu'il y a plus dessous. Mais là, dessous, mais c'est M. Planchon qui va nous dire un petit peu les enjeux.
J'étoffe un peu ma question. Du coup, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour la décision surtout de ces fouilles. Comment ça s'est passé?
Alors là, on est dans le respect de la loi, c'est-à-dire la loi sur l'archéologie préventive, une loi qui date de, enfin, qui a été remise à jour en 2004 et qui fait que pour tous travaux d'aménagement dans une zone déclarée sensible, et là tout le centre-ville de Die est dans une zone déclarée sensible, on se doute bien pourquoi, ville romaine, capitale de diocèse médiévale, donc tout le centre-ville est sensible, et à partir de ce moment-là, dès qu'il y a des travaux d'aménagement qui sont susceptibles de toucher au sous-sol et donc de porter atteinte à la conservation des vestiges qui sont dedans, il y a déjà une campagne de repérage, c'est-à-dire qu'on ouvre des fenêtres dans le sol, on fait des sondages pour repérer s'il y a des vestiges, si oui, de quelle nature, à quelle profondeur, quel intérêt ils représentent. Comme disent les collègues, quelle est la puissance stratigraphique, c'est-à-dire quelle est la profondeur d'enfouissement des vestiges les plus récents et la profondeur d'enfouissement des vestiges les plus anciens. Donc il y a 10 fenêtres qui ont été ouvertes sur la place de la cathédrale, enfin les places autour de la cathédrale, qui ont permis de repérer des vestiges qui datent depuis le XVIIIe siècle pour les plus récents, jusqu'à l'époque romaine pour les plus anciens, en sachant que l'époque romaine est enfouie à 2,70 m de profondeur. Voilà. Donc, une fois qu'on savait ça, on savait qu'on allait trouver, qu'il y a des vestiges conservés sous cette place, bah évidemment, ensuite, il faut mettre en place les éléments pour permettre de garder en parallèle l'aménagement de la place, puisque cette place a besoin d'être de toute façon réaménagée, je dirais, régulièrement, alors tous les 20, 50, 100 ans, mais peu importe. Mais de toute façon, il faut y revenir de temps en temps, puisque les choses s'abîment au fur et à mesure. Et puis, garder ça en parallèle, cette obligation de rénovation avec l'obligation de conservation du patrimoine archéologique. Patrimoine archéologique, c'est presque pire que les espèces animales menacées, c'est-à-dire que quand on détruit un vestige archéologique, il est détruit pour de bon et il ne refera jamais surface.
On ne va pas avoir de copains avec les gens qui s'occupent des espèces animales menacées.
Voilà, donc chacun ses éléments, chacun ses priorités, ses éléments de protection. Donc la faune et la flore font l'objet de protection, les vestiges archéologiques aussi. C'est toute notre histoire qui disparaît quand on détruit un site archéologique.
On peut donc quand même dire que si on supprime totalement une espèce, on ne peut pas non plus la remettre. Quand même.
Tout à fait. Tout à fait. Non, si on supprime un élément d'une espèce, on peut espérer que les autres vont quand même se reproduire entre eux. Les vestiges archéologiques ne se reproduisent pas entre eux. C'est la principale différence qui fait que là aussi, il y a des enjeux. Mais bon, blague à part, de toute façon, la loi définit bien la façon dont les choses se passent, c'est-à-dire qu'il faut allier cet impératif d'aménagement et puis l'impératif de conservation. Et c'est dans ce cadre-là que sont possibles aussi les négociations avec la DRAC, de façon, enfin avec la Direction générale des affaires culturelles, qui s'occupe de ça de la part de l'État dans les régions, de façon à ce que les aménagements puissent se faire sans entraîner des surcoûts trop importants et sans entraîner non plus de destruction de vestiges. Puisque tous les vestiges destinés à être touchés par les travaux risquent d'être détruits. Et dans ce cas-là, il faut les fouiller pour enregistrer la documentation et d'une certaine façon les sauvegarder au moins virtuellement, puisqu'on ne peut pas les conserver physiquement. Et donc dans ce cadre-là, en effet, le projet a été revu, comme c'est souvent le cas de toute façon, de façon à pouvoir réaliser les deux opérations. Et à pouvoir répondre aux deux obligations impératives, c'est-à-dire aménagement de la place d'un côté, conservation des vestiges de l'autre. Alors, pour ce qui est de la suite, on a reçu il y a peu de temps la prescription définitive, donc l'avis de l'État sur la façon de procéder. Et donc, il y a trois.
C'est un avis ou c'est une prescription ?
C'est une prescription. Une prescription. Enfin, l'État donne son avis, en effet, sur la façon de procéder, sauf que c'est un avis qu'il faut qu'on suive.
D'accord.
Là, y a pas de... La négociation a eu lieu. Et l'intérêt, c'est justement de pouvoir ouvrir deux zones à la fouille et de pouvoir travailler en remblai sur une troisième zone, qui est la zone principale, de façon à ne pas porter atteinte aux vestiges et donc ne pas être obligé de réaliser une fouille. Je rappelle qu'un fouilleur, c'est... Enfin, l'époque bénie où les fouilleurs fouillent en bénévole est terminée. Maintenant, ce sont des professionnels qui mangent trois fois par jour, qui dorment une fois par nuit et du coup, qui demandent aussi un salaire et des moyens de fonctionner. Ce qui finalement représente un certain coût.
J'ai une question associée. Sortons des vestiges pour éventuellement les mettre dans le musée après coup.
Ah oui, alors de toute façon, déjà dans les sondages, on a sorti un certain nombre, notamment deux magnifiques colonnes qui sont maintenant dans le jardin du musée, accompagnées de leurs éléments de base, enfin la partie basse de la colonne, qui sont là à l'abri dans une réserve, parce qu'on préférait ne pas les laisser dehors. Et on a eu bien raison, l'hiver a été rude. Et un hiver rude pour les pierres, c'est mauvais aussi. Et puis on espère évidemment que lors des fouilles qui vont venir, d'autres éléments de collection vont venir compléter, s'intégrer dans le jardin ou dans les salles du musée. Et puis alors ce qu'on voit moins, parce que ça prend plus de temps, c'est qu'il y a d'une part les objets mobiliers, on voit tout de suite sortir, ça c'est une chose. Et puis il y a toute la documentation qui est engrangée dans le cadre des sondages, mais aussi dans le cadre des fouilles, qui demande des études particulières, ça prend du temps, mais on peut espérer que dans les 3-4 ans qui viennent, on pourra présenter de façon générale l'ensemble des résultats de ces fouilles au musée dans le cadre d'une exposition temporaire et peut-être dans le futur musée dans le cadre d'expositions beaucoup plus permanentes.
Qu'est-ce qui a été prescrit pour la place de la République exactement ?
Alors la prescription donc définit trois zones. Une zone qui correspond peu ou prou à la place de l'horloge, qui elle va faire l'objet de fouilles. Une zone qui correspond grosso modo au parvis de la sous-préfecture et de la banque. Je ne donnerai pas le nom, je ne m'en souviens plus de toute façon. Mais grosso modo, derrière la cathédrale,
oui.
Là aussi qui va faire l'objet de fouilles. Alors on s'attend surtout de toute façon à trouver des tombes, puisque comme je disais tout à l'heure, ces zones-là ont été transformées en cimetières après la. Enfin, déjà pendant l'époque médiévale, mais aussi après
la destruction
du cloître. Et puis, il y a une zone centrale, c'est-à-dire en gros toute la zone où le marché se déroule actuellement, la place de la République telle qu'elle est, qui, elle, ne sera pas touchée par les travaux de fouille, proprement dit, puisqu'elle va être légèrement remblayée, une surélévation de quelques dizaines de centimètres, mais qui, en revanche, fera probablement l'objet de ce qu'on appelle un suivi de travaux, c'est-à-dire qu'il va falloir, avant de mettre les remblais, il va falloir enlever le goudron et les éléments stabilisés qui le soutiennent. Et on sait que quelques vestiges apparaissent juste sous le goudron. Donc à ce moment-là, on fera un simple suivi de travaux, c'est-à-dire photos, quelques relevés rapides, sans interrompre les travaux et en essayant de perdre le moins de temps possible. Du moins, je l'espère comme ça. De façon à relever le maximum d'éléments, notamment pour avoir des compléments d'information sur le plan du cloître.
D'accord.
Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de murs qui sont conservés et qu'on aimerait bien en savoir évidemment le maximum sur le plan du cloître. Donc là aussi, les intérêts du maire d'un côté qui veut que son aménagement soit fait, et c'est bien normal, et puis de l'archéologue que j'ai du mal à ne plus être, qui veut lui en savoir le maximum, ne sont pas toujours les mêmes, mais c'est là-dedans aussi par la loi qu'on arrive à trouver des arrangements où tout le monde est content au final.
Oui.
J'ai encore une nouvelle
mais vas-y.
Injonction. Le principal objectif, si je me trompe quand même, de la réfection de la place, c'est aussi la rénovation du réseau... d'égouts et de distribution d'eau. Alors ça veut dire que forcément ces vestiges vont prendre un vrai coup une fois qu'ils ont été découverts.
Alors en fait, je vais répondre rapidement sur la partie archéologique purement simplement. Ces réseaux-là existent déjà, ce qui veut dire que les percements dans les vestiges archéologiques ont déjà été faits. Certains dandys d'ailleurs se souviennent que dans les années 75-76, ils ont tous joué avec des fémurs, des crânes, des os divers et variés. Quand on a creusé, justement, on avait déjà une réfection d'égout devant la sous-préfecture. Voilà. Donc, a priori, ces réseaux seront remis aux mêmes endroits. Pour un certain nombre, d'ailleurs, ils ne seront même pas touchés depuis l'extérieur, puisqu'on va les buser par l'intérieur, en tout cas, quand c'est techniquement, c'est possible. Et à partir de là, il n'y a pas d'atteinte aux vestiges archéologiques. Ce dont vous pouvez être sûr, c'est que par contre, je ne serai pas loin dès qu'on ouvre un trou, histoire de pouvoir prendre des notes, en effet, sur ce qui peut apparaître dans les coupes et apporter quelques renseignements supplémentaires. Mais là, il n'est pas prévu de ralentir les travaux pour ce genre de considération.
C'est ce que je voulais dire et vous l'avez très bien dit. En fait, tous les réseaux secs et humides vont être refaits. Bien sûr, on ne va pas rénover la place de la République et du marché sans en profiter pour faire tous les réseaux souterrains. Mais comme vous l'avez très bien dit, ces réseaux, ils existent déjà. Donc, il n'y a aucune raison d'être inquiet. Malheureusement, pour l'archéologie, les vestiges ont déjà été dévastés il y a longtemps. Donc, on n'en rajoutera pas par les rénovations.
Oui, parce que les préoccupations de protection et de conservation évoluent avec les années de plus en plus. Et on n'avait pas les mêmes dans les années 70 que maintenant.
Tout à fait, oui.
Tout à fait. Au niveau de cette cathédrale, alors un petit dernier mot, donc la remise en valeur de la place bientôt, après ces fouilles archéologiques, la restauration des couvertures, donc beaucoup d'implications dans cette conservation, quelque chose de plus à dire de la part de la mairie, de la municipalité ?
La question qui fâchait tout le monde tout à l'heure, Jacques, tu as été alpagué pour ce.
Ah, les arbres.
Les arbres.
Ah oui, dites-nous. Alors, les arbres, finalement.
Dont on a eu un petit historique, hein, ils datent.
De 1880.
Oui, quand même. Donc, c'est bientôt
la fin.
On a d'ailleurs au musée une photo qui a été prise dans les deux premières années de plantation, où on voit ces platanes tout petits, tout minces, tout fins. Et quand on voit ce qu'ils sont devenus, oui, ils ont un certain âge, un âge vénérable.
Alors peut-on rassurer la population inquiète de la disparition éventuelle de ces arbres ? Vont-ils disparaître ?
Alors si vous voulez, on peut rassurer la population. Il y avait deux options possibles. C'est de dire beaucoup d'arbres aujourd'hui de platanes sont malades et ont une durée de vie qui ne sera pas très longue. Donc certains, tout à fait logiquement dit, il y aurait la solution de tout enlever et de replanter des arbres neufs. On imagine effectivement la place du marché aujourd'hui avec des tout petits arbres, même si aujourd'hui on s'est replanté des plus gros. C'était quelque chose d'assez dramatique. Donc on a pris l'autre option de dire, ben non, on conserve ces arbres et on les renouvellera au fur et à mesure qu'ils seront malades et qu'il faudra les couper. On va aussi non seulement ne pas les couper, sauf un, je crois, qui est contre le plus près de la cathédrale et qui, lui, est malade. Donc, celui-ci sera peut-être coupé. Mais on va rajouter plutôt 3 ou 4 arbres sur la place. Donc, non seulement on ne va pas en couper, mais on va en rajouter. Donc, les Liois peuvent se rassurer. On pourra venir se mettre à l'ombre l'été sur la place.
Formidable.
Voilà,
les arbres. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est polémique.
C'est un des débats. Il y a ça, et puis il y a le toilette publique aussi, qui fait partie des éventuelles polémiques. Celui qui est contre la cathédrale, pas forcément esthétiquement bien placé non plus, mais qui semble avoir une utilité. Alors là, encore une fois, je pose la question pour les gens.
Oui, donc si vous voulez, effectivement, les toilettes publiques, par définition, elles sont utiles. Donc si vous voulez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a. On a regardé un petit peu comment on pouvait organiser la ville par rapport aux toilettes publiques et on a prévu de restaurer les toilettes qui sont déjà en activité. Et ça, pour trois, ça a été fait. On va continuer pour les autres et on va en créer d'autres pour qu'il y ait, pas très loin du centre de ville, suffisamment de toilettes pour les personnes qui pourront en avoir besoin. Donc je sais que là aussi ça plaît pas beaucoup parce que si on envisage de rajouter des toilettes publiques plutôt dans le quartier de Saint-Marcel, Et on a eu effectivement quelques courriers nous disant qu'ils, des riverains en particulier, qu'ils étaient très hostiles à ce projet.
On ne peut pas plaire à tout le monde.
C'est très difficile de pouvoir satisfaire tout le monde, sachant qu'à partir du moment où on restaure, où on rénove la place de la République et du marché, il est assez logique de faire disparaître ces toilettes publiques qui sont devant la cathédrale et qui sont quand même pas très jolies, pas très esthétiques, et en plus qui sont pas conformes puisqu'il y a des escaliers et donc elles sont pas dans le cadre de la loi personnes à mobilité réduite. Donc de toute façon, il fallait les enlever à ce titre-là.
Dans ce cadre-là, d'accord.
Très bien, j'ai pas d'autres questions.
T'as pas d'autres questions. un dernier mot sur cette cathédrale, Madame Blanche-Maison.
Écoutez, donc elle avait été restaurée à l'intérieur il y a quelques années, donc maintenant on est en pleine période de restauration de la toiture. Là, on va la mettre en valeur avec la restauration de la place. Donc je crois qu'on fait tout pour qu'effectivement elle soit de plus en plus visible des touristes et des Diois qui sont attachés à leur patrimoine. Puisque comme on a dû avoir l'occasion de vous le dire précédemment, c'est un lieu qui sert pour le culte, mais aussi beaucoup de salles de concert, choses, etc.
Beaucoup d'autres choses, effectivement. Monsieur Bergigna, un mot sur la conservation du patrimoine à Die.
La conservation du patrimoine à Die, c'est une préoccupation importante pour la municipalité. On est... On est aidé pour ça par le conservateur du musée, Jacques Planchon, qui nous aide dans tous les choix à faire dans cette conservation. Et il faut dire qu'à Die, on est particulièrement riche avec la cathédrale, les remparts, comme ça a déjà été dit, la porte Saint-Marcel et un certain nombre d'inscriptions tout au long de la ville, dans le centre-ville, avec sur des façades, des pierres qui sont assez remarquables et qui ont toute une histoire. Donc, si vous voulez, on a aussi, bien entendu, je pense que ça a été dit dans la matinée, mais la mosaïque dans l'ancienne mairie, qui est quand même quelque chose de très important dans notre patrimoine. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose de très important, mais qui représente, bien entendu, un budget considérable. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des tranches et de programmer petit à petit cette restauration, mais à laquelle nous sommes très attachés, bien sûr. Mais heureusement, les Diois aussi sont très attachés à leur patrimoine. Donc, ils acceptent qu'on mette un budget sur cette revalorisation et cet entretien du patrimoine. Mais ils acceptent aussi, bien sûr, qu'on le programme et que ça se fasse dans le temps.
D'accord. Jacques, un dernier mot sur cette histoire de protection et conservation de la cathédrale ?
Je crois, comme l'a dit Monsieur le maire, Die est une ville avec une histoire extrêmement ancienne. C'est une ville qui apparaît sans doute au 1er siècle, donc une ville qui a en gros 2000 ans. 2000 ans qui ont laissé énormément de traces, alors certaines totalement invisibles, puisque c'est uniquement quand on creuse dans le sous-sol qu'on arrive à les trouver, ce qui se fait malheureusement à mon goût trop peu souvent, mais fort heureusement pour le budget des Diois, c'est encore limité
assez régulièrement.
Dans le temps. Voilà. Mais il y a aussi évidemment tout ce patrimoine visible qui est à la fois ces grands monuments, Porte Saint-Marcel, cathédrale, remparts et d'autres. Ces éléments qui sont moins visibles mais existants, je pense par exemple, on a parlé tout à l'heure un petit peu, les chanoineries avec un magnifique plafond peint du 15e siècle qui est une pure merveille. La mosaïque dans l'ancienne mairie, en fait dans le palais épiscopal, la mosaïque de l'évêque, qui elle aussi est une vraie merveille. C'est une mosaïque intacte qui nous arrive directement du début du XIIIe siècle, conservée dans son jus, dans sa petite chapelle, qui n'est pas assez visible. Mais justement, on travaille pour que dans quelques années, on puisse la voir beaucoup plus facilement. Et puis d'autres patrimoines plus discrets. Alors, monsieur le maire parlait des inscriptions. C'est vrai que Die a cette particularité d'avoir énormément de remplois romains et notamment d'inscriptions latines qui sont conservées dans les murs parce qu'à l'époque moderne, ça a plu aux habitants, qui les ont intégrés dans leurs habitations. Alors là aussi, il y a une protection à avoir sur ces éléments. On essaye de profiter justement des opérations de rénovation de façade pour discuter avec les propriétaires, pour voir s'il faut mettre ces pierres à l'abri au musée et les remplacer par un moulage de façon à ne pas déshabiller la ville pour habiller le musée. Garder à la ville cette particularité qui est extrêmement intéressante. Et puis d'autres pierres, je pense à des statues de saints qu'on trouve au milieu d'une façade, dans une petite rue. Je pense à toutes ces pierres qui traînent à droite à gauche, et qui font dit quelque chose, enfin qui donnent à dit une ambiance extrêmement particulière. Et c'est en effet intéressant à la fois de travailler là-dessus, d'en assurer la conservation et de programmer tout ça dans le temps, parce que de toute façon on ne pourra jamais tout faire.
D'accord.
On a senti, je pense tout au long de cette matinée, la passion aussi pour la partie historique et l'importance, le patrimoine est toujours associé à cette notion d'histoire. Maintenant, est-ce que vous, musée, mairie, représentant de la protection du patrimoine local, arrivez à mesurer, on va dire, l'importance que ça a pour les Diwa? Est-ce qu'ils sont beaucoup à venir au musée? Est-ce qu'ils sont beaucoup à demander à visiter aussi ces édifices ou à les fréquenter? Et puis, même question pour le tourisme extérieur.
Moi, j'ai une réponse à ça. Y a, sur toutes les choses qui sont mises en valeur à dit, bien sûr, il n'y a pas de mystère. De toute façon, la mise en valeur, la promotion, ça marche parce qu'on a un patrimoine extrêmement riche, extrêmement bien protégé et mis en valeur par la mairie. Donc forcément, ça fonctionne quand on fait quelque chose. La mosaïque est extrêmement demandée. Il y a des gens qui viennent de partout en Europe et partout dans le monde rien que pour voir cette mosaïque. On a une anecdote avec l'office du tourisme d'une japonaise qui était venue à dit, alors qu'à l'occasion d'un séjour en France, pour voir la mosaïque du paradis. Donc c'est assez extraordinaire. Et ensuite, pour tout ce qui est pour ce qui est du musée et des petites rues alentour, c'est à l'occasion de balades dans dit, de découvertes qu'on peut voir ces bâtiments, ces édifices, ces pierres. Et l'office du tourisme a fait des petits guides de la ville, justement, avec des visites thématiques dans la ville, des promenades où on peut voir des éléments qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ensuite, au musée, on est ouvert, bien sûr, tout l'été de manière à accueillir le maximum de public, et ça marche plutôt bien, ça marche plutôt fort. Le grand moment phare, les journées du patrimoine, et puis tout le reste donc, de l'été, de la saison touristique.
Déjà l'ouverture officielle là, le 14 avril, donc il y a pas mal marché. Hein. Il y a à grand renfort de publicité sur le journal du Diwa et d'articles après. Oui. Et puis il va y avoir la nuit des musées
le
au
19
mois de mai.
Le 19 également, mai.
Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Oui.
Tout à fait. Non mais il y a du public intéressé en tout cas par ce patrimoine.
Puis on a un autre type de public, c'est vrai que le tourisme Diwa est, on le sait, principalement un tourisme vert. C'est-à-dire qu'il vient ici parce qu'il y a des éléments de paysage. Alors c'est vrai qu'il y a un paysage qui est quand même là aussi très particulier, qui est absolument fantastique. Tourisme vert, tourisme de détente, et qui est souvent surpris et extrêmement intéressé de découvrir justement cette qualité de patrimoine qu'ils n'attendent pas forcément sur ces secteurs de campagne séparés de la ville du Rhône. On n'a pas de TGV, on n'a pas d'autoroute, donc forcément, quand on n'a ni TGV ni autoroute, on est une enclave. Et dans cette enclave, découvrir une vie patrimoniale et un patrimoine aussi riche est en général extrêmement intéressant et ahurissant pour les touristes qui le découvrent avec beaucoup de plaisir. Et certains sont venus pour les paysages et finissent par revenir pour le patrimoine parce qu'il est extrêmement riche et extrêmement bien conservé.
Il est 13h pile, donc Madame Blanche-Maison, merci beaucoup d'être venue.
Je vous en prie, c'est un
plaisir. Monsieur Berginia, merci beaucoup aussi d'avoir honoré notre studio mobile deux fois cette matinée. Et Jacques, merci d'être resté aussi longtemps avec nous pour
merci
toutes ces
aussi.
Précisions historiques. Pour toute cette matinée, donc on a accueilli beaucoup d'invités. C'était un réel plaisir. Avec les aléas du direct, bien sûr, beaucoup de vent ce matin sur le marché. C'était un peu compliqué. Merci beaucoup donc à Monique Sirène et à Albert Lang qui sont venus nous jouer de l'orgue et nous présenter leurs associations. Merci à Monsieur Parent et à Monsieur... et à M. Laglaise qui nous ont présenté les activités religieuses. Merci à tous les autres qui ont pu répondre au micro-totoir de Quentin, donc notre animateur de micro haute fréquence, entre autres, et qui fait aussi une émission sur RDIWA. Merci, j'en oublierai certainement. Hein. Merci à Stéphanie et Ludivine de l'Office du Tourisme. Merci à toutes les chorales. Merci à Jacqueline Schriff qui est venue ce matin, tout à fait. Merci beaucoup. Et... ensuite, je remercie toute l'équipe d'RDIWA. Merci à mes deux techniciens super qui ont suggéré ce direct toute la matinée fabuleusement, Baptiste et Christophe. Merci les garçons.
Et merci puis, à Naël.
Et merci à toute l'équipe d'RDIWA. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé en amont. C'était super. Et écoutez, RDIWA, vous avez le droit.
Merci à vous.
Merci.
Merci.